dans la rue traversière. Il y poussait des roses et tout un tas d'autres choses que personne ne voyait. Et tout un tas d'autres choses.
L'idée de ce soir, c'était de confronter un petit peu ce qu'on vit au quotidien, hein, donc ce que vous vivez au quotidien, avec une vision un petit peu d'experts, des techniciens, de responsables donc d'aménagement. Hein, donc le MD 54, c'est un organisme qui dépend qui est une émanation du département, ils vont se présenter, hein, et qui travaille souvent sur des problèmes d'urbanisme et d'aménagement de transit dans les communes. Alors, l'idée de ce soir, c'est que, dans un premier temps, il présente un petit peu les problématiques, qu'est-ce qui se passe dans les transits de communes, et puis des solutions techniques, sachant qu'on est sur une RD, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et puis malgré tout, vous avez vous tous aussi un vécu qui est différent, des vécus d'usagers, de riverains, c'est-à-dire que vous déplacez à pied, vous garez vos voitures. Vous êtes confronté aux gens qui traversent la commune à des vitesses diverses et variées. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on essaye d'aborder ensemble et de voir quelles sont les possibilités, sachant que ce soir, il n'y aura rien d'écrit. Hein, c'est simplement, on essaye de voir ce qui est possible, les avantages et inconvénients, et puis d'échanger autour de vos expériences, de ce que vous vivez au quotidien. Voilà. Donc voilà, dans un premier temps, je laisse la personne du MD se présenter et puis on va avoir cette phase de présentation et après on pourra discuter autour d'un plan ou autour de vos témoignages.
Bonsoir à tous, merci d'être présents. Donc, je me présente, Nathan Ditch, chargé d'études en aménagement et voirie donc chez MMD 54. Comme monsieur le maire l'a présenté, donc Meurthe et Moselle Développement, qui est une agence territoriale du département.
Frédéric Gournet, donc un collègue de Nathan, on travaille sur les mêmes problématiques et donc on accompagne la commune de Chaulois dans la sécurisation de la traverse du village.
Ce soir, on va organiser un peu la soirée donc sous la forme d'une réunion publique. Donc l'idée, c'est d'informer, d'avoir vos retours d'expérience. Si vous avez des questions pendant la présentation, avant, après, c'est le but d'échanger ce soir. Le thème, donc, c'est l'aménagement, la présentation des aménagements réducteurs de vitesse et de la sécurisation sur la traverse de Chaulois-Méniéo, donc la rue de Toul, principalement. Alors la soirée va se dérouler en 4 étapes. Une première où je vous présente un petit préambule sur la notion de vitesse, qui peut différer de chacun. Comme ça, on aura le même référentiel pour échanger. Une présentation des outils donc à notre disposition pour justement limiter, aménager, organiser autour d'atouts et de faiblesses. Un échange autour d'un plan. Donc l'idée, ça va être de vous faire participer. Donc on a imprimé des grands plans, vous allez pouvoir écrire, nous préciser vos expériences, vos ressentis. Et ensuite, on essaiera de faire une synthèse de toutes vos remarques, de ce qu'on vous a présenté, de vos idées, pour qu'on parte, on va dire ce soir, avec tous la même base, et pour qu'on puisse avancer pour la prochaine étape.
Dans la rue traversière, il y poussait des roses. Et tout un tas d'autres choses que personne ne voyait. Et tout un tas d'autres choses.
En préambule, on va parler un peu de la vitesse en elle-même. La vitesse, donc, c'est un facteur à risque capital dans les accidents. Donc, c'est-à-dire que sa régulation est nécessaire, mais ne doit pas être contraignante. L'idée, c'est d'avoir des aménagements qui servent cette réduction de la vitesse sans pour autant vous contraindre dans vos déplacements, dans vos utilisations de l'espace public, etc. Une démarche de sécurité donc, doit consister à faire une analyse objective, donc à la fois du contexte dans lequel on s'insère et de vos ressentis, par exemple, de vos expériences et aussi des vitesses réelles qui seront pratiquées, donc c'est-à-dire les chiffres, hein, voilà, parce qu'il y a le ressenti et il y a les faits. L'analyse des vitesses réelles, elle est à mettre en relation avec l'infrastructure sur laquelle elle est pratiquée. Donc le ressenti de la vitesse élevée peut notamment avoir pour origine plusieurs problèmes. Des problèmes de visibilité au droit d'un carrefour, des problèmes de proximité avec les habitats. Ça peut être une chaussée dégradée, ça peut être plein de choses, ou même une chaussée neuve. Et il faut distinguer deux types de valeurs. La vitesse excessive, donc, qui est une valeur réglementaire, c'est-à-dire au-delà de 50 km/h, par exemple, dans un village, au-delà de 30, etc. Et la vitesse inappropriée, c'est en fonction de l'environnement, la présence de piétons, de cyclistes, d'usagers vulnérables, pardon, etc. Là, ici, vous avez un petit schéma pour essayer de comprendre un peu mieux la notion de flux sur les voiries. Et notamment, pour comprendre les problèmes d'insécurité, il est important de comprendre les flux de déplacement. Par exemple, vous avez... ici, trois axes de déplacement, un bleu, un orange et un rouge. Et en fait, on voit bien que le bleu, ça peut s'apparenter par exemple à la rue de Toul. Donc, c'est une voie de transit, c'est une grande voie, une traverse. On arrive d'un point A pour un point B pour traverser le village. On a par exemple les voiries en orange, donc qui sont des voiries émanantes de la rue bleue, donc la rue de Toul. Ça peut être la rue de Fougue, la rue Marcel-André, si je ne me trompe pas, voilà. Donc qui sont au droit de votre mairie. Et on a des axes donc en rouge qui sont des petits axes rémanents encore de l'axe principal qui sont eux des axes plutôt hyper locaux, c'est-à-dire qu'on a 2-3 maisons, c'est des pratiques d'usagers telles que cyclables, les enfants courent dedans, etc. Donc un petit peu en reculé. Par exemple, vous avez la rue de la Chauvet qui juste ici, voilà. Bah, je pensais être à la mairie, mais juste ici, voilà, qui en est un bon exemple aussi justement.
Donc ce que ce schéma veut montrer, c'est qu'on ne va pas traiter la sécurisation et la vitesse de la même façon qu'on soit aux abords du village ou dans le cœur même du village. Puisque on le voit bien à l'extérieur du village, cette notion de faire rouler des voitures sur une route où les voitures sont quasiment seules, avec les poids lourds par exemple. Et puis quand on approche du village, bon, on a une densité d'habitat qui est moindre, donc avec une densité de population moins importante, moins d'échanges. Et plus on se rapproche du cœur du village, plus on a des flux à sécuriser avec, je ne sais pas moi, les nounous, avec les poussettes et les enfants, les personnes âgées qui habitent le village et qui se déplacent d'une maison à l'autre. Donc on va être encore plus exigeant sur ce cœur du village plutôt que sur les abords.
Pour essayer d'un peu mieux comprendre aussi ces problèmes d'insécurité, c'est important de prendre des exemples pour mieux saisir les choses et connaître les éléments du contexte qui font qu'on a une sensation de danger, d'insécurité, etc. Par exemple, à gauche de l'image, donc, vous avez une rue et l'insécurité, elle existe par l'absence, par exemple, de cheminement piétonnier ou de continuité piétonne. À gauche, vous n'avez pas de trottoir ou très peu, et à droite, vous en avez, mais il y a du stationnement. Donc vous arrivez dans un virage, ça peut être dangereux aussi. Et à droite, bah vous avez également une voie, mais cette fois-ci avec un trottoir qui paraît quand même tout à fait convenable. Mais on a un souci, c'est ce bombé qui arrive, on ne voit pas les voitures arriver de l'autre côté. Donc par exemple, on est un cycliste, ça peut être dangereux aussi. Voilà, donc c'est plein de facteurs et du contexte qui peuvent causer ces insécurités.
Dans la rue traversière, il y avait un vieux bébé qui pleurait à la fenêtre. Parce qu'il allait tomber, qui pleurait à la fenêtre, parce qu'il allait tomber.
Pour agir sur l'infrastructure et pour favoriser une conduite adaptée, c'est important, comme je disais, du coup, de prendre les choses dans sa globalité. C'est-à-dire que des fois, le contexte favorise ou non, par exemple, la réduction de vitesse. Vous avez une rue assez étroite qui peut favoriser la réduction de vitesse. On ne sait pas où on va, on est un petit peu serré, on réduit. Par contre, à l'inverse, si vous avez un boulevard, quelque chose de très large, avec des grands accotements, bah là, naturellement, vous allez aller plus vite. Et c'est ça aussi qu'on va essayer de vous montrer ce soir. Agir sur l'infrastructure, c'est donc agir sur, par exemple, les entrées d'agglomération. Donc, on peut agir sur les trajectoires de rue, c'est-à-dire qu'une rue droite, forcément, bah, il n'y a pas besoin de réfléchir, on va tout droit, on garde une vitesse constante. On peut agir sur le profil en travers aussi. On peut agir sur le profil en long, donc c'est à la fois est-ce qu'on peut on va dire modifier la voirie dans sa largeur, mais aussi dans sa longueur. Comment est-ce qu'on peut justement revoir ça pour limiter un petit peu la vitesse et améliorer la sécurité. La notion de carrefour aussi, les régimes de priorité et les mesures indicatives. Ça peut être par exemple les radars pédagogiques qui vous indiquent votre vitesse quand vous entrez dans le village, par exemple. On va commencer du coup par les entrées d'agglomération. Ici, vous avez deux images qui présentent un petit peu deux points de vue. Vous avez un premier point de vue en haut qui présente une entrée d'agglomération qui est totalement vide, assez rurale, où on a un champ d'à côté, une haie de l'autre, un panneau. On n'en sait pas plus, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un boulevard. C'est littéralement une ligne droite où on n'a rien qui se passe. Et donc forcément, bah, c'est pas au panneau que les gens vont ralentir. Deuxième option, vous avez aussi en dessous un autre aménagement qui cette fois propose justement de revoir l'entrée de village. Et c'est par cette entrée de village, des fois, qu'on peut aussi faire respecter une vitesse un peu plus réglementaire dans l'ensemble de la commune. Là, par exemple, vous avez justement un dédoublement de la chaussée avec un îlot qui permet à la fois donc, de casser la vitesse puisqu'on n'a plus des voies droites. Donc on va devoir tourner, etc. Donc on va réduire naturellement. Mais aussi, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a un peu de fleurissement, il y a un panneau ou deux en plus, il y a du marquage, etc. Et tout ça favorise une interrogation de l'automobiliste qui arrive. Et donc, bah, s'il s'interroge, il peut potentiellement ralentir.
Simplement dire que sur l'image qu'il y avait sur le slide précédent en haut, en fait, on a l'impression que c'est la simple continuité de la route départementale. Malgré la présence du panneau, on est toujours sur une route. Et ce qu'on cherche quand on est à l'approche d'un village, c'est qu'on ne soit plus sur une route, mais sur une rue. Et là, on a tout le dialogue de la route en haut avec les accotements enherbés. Enfin, rien ne change et ce n'est pas la présence du panneau qui va inciter les automobilistes à ralentir. Alors qu'en bas, on voit bien qu'on a une porte d'entrée qui est matérialisée et on change d'environnement. On arrive dans une agglomération et donc là, l'automobiliste, inconsciemment, va avoir tendance à infléchir sa vitesse.
Agir sur les infrastructures, donc on parlait de trajectoire, c'est avant tout, il y a un réel besoin de réflexion. De déflexion, pardon, significative de la trajectoire. C'est-à-dire que on arrive des fois sur des chicanes ou des aménagements qui sont pas totalement qui monopolisent pas totalement une voie. Et l'idée, c'est de vraiment monopoliser une voie ou d'y aller franchement, justement, parce que si on n'y va pas à fond, eh ben, ça marche pas beaucoup. On a des risques d'accident, on sait pas qui a le régime de priorité, etc. Donc dans ces aménagements-là, il faut vraiment trancher les choses nettement. Alors, à noter, parce qu'on va présenter les différents aménagements, on va parler aussi un peu des inconvénients. Il y a un coût qui est assez important, puisque quand même, on a une redimensionnement de la chaussée, des travaux de création qui sont assez importants. Et donc, on peut avoir aussi, par exemple, des options de création d'aires de stationnement dans des chicanes latérales. Vous avez déjà vu, je pense, c'est donc des voies qui sont des espaces au bord de la route qui sont des chicanes, mais où on peut se garer dedans.
Voilà. Dans la rue traversière, il y avait une grand-maman qui montrait son derrière pour 235 francs. Qui montrait son derrière pour 235.
Ensuite, on a donc le principe des écluses. Donc, le but, c'est de réduire la chaussée à une voie unique pour imposer un mode de circulation alterné. Donc, on en a des simples, comme en haut à gauche, le petit. Voilà ici, le petit dessin ici, le schéma, où en fait on monopolise une des deux voies, et donc le régime de priorité, on l'impose à ceux venant de droite ou de gauche. Et des écluses doubles, donc qui peuvent être soit en vis-à-vis, comme on a ici sur l'image, où l'idée c'est vraiment de réduire à une chaussée centrale, et donc là on va avoir pareil un effet de blocage, c'est au compte-gouttes, ou en décalé, en quinconce, comme ça ici, où pareil on va pouvoir justement créer à peu près la même manière de ce qu'on vous a présenté avant, donc c'est-à-dire qu'on va casser ce linéaire. À noter que ces écluses ne fonctionnent que dans des cas assez concrets, c'est quand on a un flux qui est homogène dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez des voitures qui viennent que d'un côté, parce que par exemple on sort tous du village le matin pour aller travailler, en face il n'y a personne, l'écluse, elle ne marche pas puisqu'on n'a personne comme obstacle. Et vice-versa. Si on rentre tous pour travailler, il n'y a personne qui sort. Donc voilà. Donc ça marche que sur des traverses où vraiment le flux est homogène dans les deux sens. Et à noter aussi que c'est un aménagement qu'on peut faire qu'à partir de 75 mètres dans l'agglomération à partir du panneau. Ensuite, les plateaux surélevés. Alors, à ne pas confondre avec les dodanes, hein, c'est donc une emprise totale de la chaussée, donc de trottoir à trottoir. L'idée, c'est en fait de créer un plateau, je pense que vous le pratiquez aussi, hein, un plateau qui fait une sorte d'obstacle franchissable, avec une pente, un dénivelé, une longueur très précise, donc on parle de 12 mètres au minimum, donc pour pas qu'il soit trop petit, mais pour pas non plus qu'il soit trop long, puisque une fois qu'on est monté sur le plateau, on pourrait accélérer. L'idée, c'est aussi de permettre la traversée piétonne. Donc c'est un peu une zone de rencontre. On peut traverser plus en sécurité. Les automobilistes ralentissent. C'est assez intéressant. Et ça prend l'ensemble des usagers. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, sur les coussins berlinois qu'on verra plus tard, on peut passer entre. Là, c'est pour l'ensemble des usagers. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. La question des engins agricoles dans ces aménagements-là. Puisque... n'importe quel engin lourd, hein, on s'entend, ça peut être un poids lourd aussi, hein, ils ont en tout cas les mêmes problématiques que vous. Alors, comme disait Frédéric, on garantit dans ces aménagements-là, on essaie de garantir au mieux une largeur donc déjà de passage et une largeur de giration. possible pour ces engins, donc agricoles ou poids lourds. Il faut bien noter qu'il y a un moment, même dans des aménagements qu'on réglemente pour vous, pour ces types d'engins-là, demain, par exemple, un tracteur qui passe avec un immense chargement, forcément, il va avoir un peu de mal, comme dans n'importe quelle rue qui aurait été réaménagée. Ça, on est d'accord. Et c'est pour ça aussi que la concertation a lieu maintenant, c'est pour justement échanger sur les besoins de chacun.
Dans la rue traversière, silencieux près d'une borne, il y avait un militaire, les pieds dans son bicorne.
Il y avait un militaire. Il y a des gens qui ont des besoins de réduction de vitesse, parce qu'il y a un problème de vitesse, il y a un problème de sécurité, de passage piéton, etc. De déambulation piétonne, pardon. Et il y a, par exemple, vos remarques justement sur les engins agricoles. Et on va essayer de mettre tout ça en lien justement pour proposer des solutions qui pourraient vous mettre d'accord. Par exemple, là, sur le plateau surélevé qu'on a là, l'engin agricole peut passer sans souci. Alors oui, forcément, c'est un obstacle, donc on va avoir sûrement un peu de bruit, ça c'est indéniable. De toute manière, n'importe quel obstacle sur la route fera du bruit, le freinage d'une voiture le fera aussi, quelle est une remorque également, ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre, vous pouvez passer dessus, il n'y a pas de raison.
On prend l'intersection là, de l'église, là. Si je ne force pas, tout le monde me coupe la route. Là, l'ambulance vient de passer, elle ne s'est même pas aperçue qu'il y a une priorité. Donc c'est là qu'il faut le mettre, là il faut mettre ça, et le village à 30. Et avec des radars. Il y a des villages, il y a des radars. Vous prenez Rosières, il y a deux radars. Mondreville, il y a deux radars. Et ça fonctionne très bien. Ici, il n'y a rien. Je viens de faire 100 mètres, j'étais 100 mètres sur la route. Pas de trottoir. Ici, il y a une fausse courbe ici, il y a une courbe en bas là-bas. Plus entrée du village, ça en fait 3. Donc 30. Remettez déjà 30 au village, vous allez voir, ça va déjà réduire.
Alors, pour en finir sur le passage des engins agricoles, alors bien évidemment, il y a une charte des circulations agricoles qui a été signée entre la Chambre d'agriculture et le département. Et dans les conseils qu'on donne aux communes, on demande bien sûr le respect de cette charte. C'est-à-dire qu'il faut bien considérer que quand on est à l'intérieur du village, on n'est plus sur une route, on est sur une rue. Et qu'on a besoin de partager l'espace entre les piétons, les cyclistes, le stationnement, mais aussi les agriculteurs et, comme vous le disiez tout à l'heure, dans certains villages, des convois exceptionnels. Alors, c'est vrai que tous ces dispositifs-là ne font que ennuyer, que poser problème à tous les gens qui sont respectueux. Et on en est bien conscience, c'est vrai qu'on pénalise tout le monde en aménageant ce genre de dispositif, parce que si, comme vous le disiez, tout le monde roulait à 30, on n'aurait même pas besoin de faire ça. Seulement, certains sont inciviques, donc ils ne respectent rien et on est bien obligé de contrôler, de modérer leur vitesse. Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que quand on a une voie ouverte, quand on a une écluse pour les agriculteurs, mais on essaye d'aménager pour faire en sorte que l'automobiliste se sente contraint, mais que l'agriculteur puisse passer avec ce qu'on appelle des surlargeurs franchissables, c'est-à-dire que s'il faut mettre la roue sur une bordure, s'il faut mettre la roue sur un petit trottoir, eh bien ça peut passer quand même. Voilà. Hein, donc bien évidemment, on entrave le travail de personne. C'est une évidence, surtout à la campagne. Hein. Et puis, pour ce que disait monsieur, alors effectivement, la réduction de vitesse, c'est un facteur important, hein, la vitesse légale, la vitesse maximum autorisée que le maire décidera d'appliquer sur sa commune. Par contre, un panneau n'a jamais fait la limitation de vitesse, et ça je peux vous en parler puisque on y est confronté tous les jours. On a des communes qui mettent un 30 sur leur panneau d'entrée d'agglomération. Si vous avez une entrée comme la première qu'on a vue tout à l'heure, vous savez, vous avez une RD qui continue, les gens continuent à rouler à 80. Parce que c'est inconscient. Et quand vous arrivez dans une rue, comme quand vous êtes dans le centre-ville de Toul, par exemple, ou quand vous êtes sur des petites rues resserrées, eh bien là, les gens réduisent leur vitesse naturellement.
Dans la rue traversière, il y avait un inventeur qui faisait des montgolfières en noir et en couleur. Qui faisait des montgolfières.
Donc il faut bien corréler à la fois la réglementation, mais aussi les aménagements qui vont contraindre les gens à baisser leur vitesse. Sinon, on n'y arrive pas. Et je peux vous dire qu'il y a un autre problème, c'est qu'on intervient pour des communes sur la vallée du Rupdemade. Il y a 7 maires qui se sont groupés parce qu'ils ont des réels problèmes de vitesse sur leur traversée. Donc on est entre Pagny-sur-Moselle et Chamblay, hein, on est sur l'axe Metz-Verdun, on va dire. Et vous avez un trafic professionnel très, très important. Et on a constaté des vitesses qui sont démentielles dans les villages. On s'est aperçu qu'en fait, à force de contraindre les gens dans les traversées de village, quand vous leur faites faire quand vous leur faites perdre du temps sur leur trajet quotidien, ils n'ont plus qu'une obsession, c'est rattraper le temps que vous leur avez fait perdre. Donc il faut bien qu'on soit vigilant sur ce qu'on appelle la réduction de vitesse. Ça va être la conclusion de la présentation, vous le verrez. Réduire la vitesse, c'est un élément important de la sécurisation. Mais on verra que la vitesse, on arrive à la juguler ponctuellement. À un endroit où on choisira qu'il faut absolument que les automobilistes roulent doucement parce que vous avez une traversée piétonne, parce que vous avez l'école, parce que vous avez le bar, parce que, etc. Si vous voulez réduire la vitesse sur toute la longueur de Cholet-Médillot, vous allez faire ce qui s'est fait à Villers-Saint-Étienne. Vous allez créer des obstacles partout et le département va vous le refuser. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien créer les conditions de la sécurité en faisant que les voitures sont sur la route, les piétons sont sur les trottoirs et les voitures sont stationnées sur les emplacements qui leur sont réservés. Et là, on aura un mixte entre la réduction de vitesse et la sécurisation des flux. Voilà. Hein, c'est sur ça qu'il faut travailler, en fait.
Comme on disait, donc, ce plateau surélevé, il peut se trouver à la fois sur l'emprise d'une voie, mais aussi sur l'emprise d'un carrefour, d'une intersection. Ça permet aussi donc, de faire ralentir dans les intersections quand on a peu de visibilité, quand on est un peu au centre du village, etc. Il y a des enfants qui passent, il y a des usagers fragiles qui peuvent traverser. Et donc là aussi, comme disait Frédéric, le but c'est vraiment de ralentir la vitesse. Et ça, ça marche, c'est sûr. C'est vrai qu'un panneau, un radar pédagogique, bah, ça n'a jamais fait l'obstacle de réduire la vitesse. Donc, comme je disais, voilà, ce genre d'infrastructure, d'aménagement, ça impacte donc sur la vitesse de tous les usagers, sur l'emprise de la route ou du carrefour concerné. Le but, c'est d'adapter le trafic. L'aménagement est adapté à tout trafic ou tout type de voie, pas de souci. Par contre, en revanche, on a des problèmes, par exemple, qui peuvent être rémanés du bruit. Justement, on disait un engin agricole qui passe, qui claque un peu, une remorque, quelqu'un qui freine, forcément c'est un obstacle, forcément il y a accélération, décélération. Et puis c'est des coûts qui sont quand même toujours un peu conséquents, puisque comme on disait, on touche à la voirie pure et dure, on touche à sa structure, donc on va du simple au double aux alentours de 30 à 60 000 euros. Et c'est un aménagement qu'on peut mettre à partir de 75 mètres en agglomération, à partir du panneau d'entrée d'agglomération, comme pour les chicanes tout à l'heure.
Dans la rue traversière, il y avait une guillotine qui coupait des cigares pour le papa d'Aline. Qui coupait des cigares.
On intervient aussi donc sur les autres types d'infrastructures, celles que nous ne pouvons pas prescrire dans le cadre de la route départementale qui traverse Cholet-Médillot, donc la rue de Toul. Notamment les coussins berlinois. Donc vous avez juste ici à gauche. Donc c'est ce que vous voyez souvent, alors plus dans des zones urbaines, Toul, Nancy, etc. Donc c'est un aménagement qui se situe juste sur une partie centrale de la chaussée et qui ne sont pas autorisés sur les RD. Voilà, c'est ça, uniquement sur les voies communales. Donc voilà, donc on vous le présente, mais on ne pourra pas en débattre tout à l'heure puisqu'il n'y a pas de débat là-dessus.
Alors, le Dodane, comme vous le voyez sur l'image de droite, c'est l'élément de modération de la vitesse le plus efficace. Hein, c'est-à-dire que là, vous ne le passez pas au-delà de 30, sinon vous abîmez votre voiture. Le problème, c'est que c'est un élément qui est normé et on ne peut, le créer qu'à 200 mètres à l'intérieur de l'agglomération. C'est-à-dire qu'on n'est même plus à 75 mètres du panneau, il faut qu'on soit à 200 mètres. Donc dès lors que vous avez un village qui fait 500 mètres, par exemple, eh bien, vous allez être contraint à avoir un seul Dodane. Et en plus, la deuxième contrainte, c'est que le département nous l'interdit dès lors qu'on a environ 1000 véhicules par jour. Ce qui est le cas pour Cholet, même un peu au-delà. Donc malheureusement, on ne pourra pas vous proposer ce genre de dispositifs qui sont proscrits sur la rue de Toul.
Comme je disais, on peut aussi agir sur le profil en travers de la chaussée. Donc ça, c'est la partie donc, perpendiculaire. Hein. Vous coupez la chaussée de manière perpendiculaire et vous avez donc ce genre de coupe. Donc une double voie, deux sens, et on peut par exemple agir sur la largeur qu'elle a. Par exemple, c'est ce qui est tenté d'être fait à Cholet, où on voit par exemple sur la rue de Toul une réduction donc par un marquage de la voie, justement pour favoriser aussi le stationnement. Et donc ça fait partie de ce qu'on peut faire, de réduire la chaussée. On a des villages où on a des emprises de chaussée de 7 à 8 mètres parfois, alors que en règle générale, on essaie de tourner aux alentours de 6 mètres. 6 mètres qui est le minimum, justement pour pouvoir croiser, comme on disait aussi avec les engins, etc. Mais aussi pour surtout deux voitures. Et donc, le profil en travers, il est adapté aussi en fonction de l'utilisation et des usagers qui le pratiquent. C'est-à-dire que, par exemple, si on est dans une rue à 50, une double voie comme celle-ci, c'est tout à fait normal, des trottoirs des deux côtés, c'est logique, hein, c'est pour que tout le monde puisse l'utiliser. Par contre, demain, si on passe dans une zone 30, pourquoi pas, on peut réduire à une voie, par exemple avec une emprise piétonne plus grande. Ça peut favoriser aussi justement la réapparition de lieux de vie, de commerce, etc. On a la zone à 20, qui alors je pense concernera pas Cholois-Mégnaud ni la traversée de la rue de Toul, mais voilà, il faut adapter en fait à l'utilisation.
Dans la rue traversière, il y avait des amoureux, sous les portes cochères, qui se comptaient les yeux, sous les portes cochères.
En fait, vous le voyez, on ne peut adapter et faire respecter la limitation de vitesse qu'en fonction de l'environnement dans lequel on circule. À gauche, vous avez un profil de rue tout à fait classique, on roule à 50. À droite, on voit qu'il y a déjà moins de place pour l'automobiliste, on se sent gêné, on va plutôt rouler facilement à 30. Et si on veut faire respecter le slide qui est en bas à gauche, là, qu'on appelle une zone de rencontre, hein, avec une limitation à 20 km/h, là, il faut que l'automobiliste se sente toléré, simplement. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une route. Donc, c'est vraiment pour des endroits qui sont très spécifiques, quand vous êtes aux abords de monuments historiques, quand vous avez une zone qui est très commerçante, mais qui doit laisser passer des voitures, par exemple, hein, comme certains secteurs de Nancy. Et puis après, vous avez la zone piétonne où là, carrément, la circulation est proscrite, hein, simplement ouverte au moment des livraisons. Et puis après, c'est que pour les piétons. Donc on voit bien que si on veut faire respecter une limitation de vitesse, il faut absolument adapter le profil de la rue à ce souhait, à cette réglementation. Finalement, la zone 30 devient assez incompatible avec le croisement des engins agricoles. Donc c'est pour ça qu'on va devoir composer et qu'on aura vraiment besoin d'une notion de compromis pour aménager, puisqu'il faut que tout le monde y trouve son compte, il faut que tout le monde puisse circuler librement.
Donc pour résumer, donc, agir sur la largeur d'une chaussée, c'est donc la prise en compte de tous les usagers, hein, dans leur ensemble. On disait donc les agriculteurs, les automobilistes, les gens qui vont travailler le matin et le soir, les gens qui vont faire un peu de vélo, les gens qui marchent, etc. Le but, c'est d'améliorer la sécurité des piétons en fonction de l'aménagement. Donc c'est vraiment l'objectif aussi, hein, de réduire l'emprise de la chaussée, la place de la voiture. C'est d'imposer aux usagers d'adapter leur vitesse. C'est-à-dire qu'en réduisant la taille de la chaussée, comme on disait, on réduit aussi un petit peu l'emprise qu'elle a, et donc on réduit naturellement la vitesse. Par contre, voilà, on parlait des avantages, des inconvénients. Des inconvénients, c'est le coût important en construction pérenne qu'on a, puisque, comme on disait, bah, c'est aussi reconstruire un profil de voirie, de chaussée, etc. Mais en revanche, c'est vraiment aussi avoir des nouveaux espaces offerts aux habitants, à la population, se réapproprier un peu aussi l'espace communal, la rue. On peut aussi également agir sur les carrefours. Donc, c'est important de bien dimensionner les carrefours suivant le type et le volume de trafic, suivant aussi la répartition des flux, c'est-à-dire que, par exemple, la rue Toul va croiser plusieurs autres petites rues. Comment est-ce qu'on donne la priorité à l'une, à l'autre? Quel est l'intérêt? Le but, c'est de faire attention aussi à la visibilité sur les grands axes. Comme on disait, là, par exemple, vous venez des petites rues adjacentes qui débouchent sur la rue Toul. Bah, comment s'insérer quand le trafic est au plus haut? Aussi au flux piéton, c'est-à-dire que bah, de ces rues-là, il y a souvent des usagers fragiles qui viennent, des vélos, des poussettes, ce qu'on veut, des enfants. Donc, il faut faire attention. Et aussi, également, bah, tout ce qui est deux roues, etc. Donc, usagers plus fragiles. On parlait donc des intersections, donc vient également le principe de régime de priorité. Donc vous les connaissez tous, hein, le céder le passage, la priorité à droite, le feu, le stop. L'important, c'est vraiment de tabler, pardon, sur de la visibilité. C'est-à-dire que le maître mot, c'est de ne pas mettre en danger les automobilistes venant de n'importe quelle rue, et donc d'adapter au mieux la signalisation. Faut prendre aussi en compte que quand on change le régime de priorité, quand on apporte un stop, etc., bah, par exemple, on va avoir du freinage, on va avoir de la réaccélération, comme pour les obstacles aussi type dodane, plateau surélevé, etc. Et donc, bah oui, forcément, ce que disait Frédéric, c'est une contrainte aussi pour l'ensemble des habitants, mais c'est des fois aussi nécessaire, malheureusement, pour réduire les pointes de vitesse, les incivilités.
Dans la rue traversière, il y avait des lions féroces, habillés en cosaques pour aller à la noce. Habillés en cosaques.
Juste une précision là-dessus, vous devez pester comme on le fait tous quand vous traversez certains villages et puis qu'on vous impose un stop alors que vous n'avez aucune visibilité sur la rue adjacente. Hein, parce que bien souvent, on a vu fleurir ces dernières années des stops que l'on met sur la route, qu'on pourrait considérer comme la route principale, enfin comme la rue principale, et puis on demande à ces automobilistes de céder le passage aux petits trucs qui arrivent sur le côté. Alors ça part d'un bon sentiment, parce que c'est se dire, bah, on va essayer de réduire le flux sur la route qui incite le plus à rouler vite. Mais le problème, c'est que parfois, ça se fait au détriment de la visibilité. Donc il ne faut absolument pas aller là-dessus, parce que, pour le coup, on va mettre en insécurité ceux qui arrivent sur le côté et qui, normalement, doivent avoir la priorité. Donc il faut absolument que le choix du régime de priorité se fasse en cohérence avec le lieu. C'est-à-dire il faut qu'on s'assure que la visibilité est bonne. Il faut qu'on s'assure que les automobilistes vont bien comprendre ce qu'on leur demande. Quand vous avez certains villages où on vous met un stop sur un chemin blanc qui arrive à droite, ça n'incite pas à le respecter. Il faut absolument que ce qu'on fait soit cohérent avec la réglementation pour que les gens respectent naturellement ce qu'on leur impose.
On en parlait tout à l'heure aussi, donc les mesures indicatives. On parlait des feux pédagogiques, ça peut être aussi, par exemple, aux abords des écoles, vous retrouvez maintenant un peu les silhouettes aussi, des silhouettes d'enfants, vous savez, qu'on met au niveau des passages piétons des écoles. Alors, on en parlait, ça a un effet un peu temporaire pour ces aménagements-là. Pour le fait pédagogique, une fois qu'on a connu notre vitesse, ça ne nous empêche pas forcément de rouler vite. Pour les silhouettes, par exemple, aux abords des écoles, ça surprend la première fois, mais pas la deuxième fois. Et sauf que peut-être qu'au bout d'une certaine fois, il y aura réellement un enfant, et on se dira, non, c'est la silhouette. C'est pas la silhouette. Et donc, ça peut être aussi un facteur de risque et un facteur un peu aggravant, finalement, à l'inverse de ce qu'on voulait faire. On a aussi donc les feux dits intelligents, les feux à récompense, en fonction de la vitesse. Donc, ils passent au vert, ou l'inverse, ils peuvent passer au rouge quand on va trop vite. Donc, c'est des feux aussi qui ont qu'un effet temporaire. Une fois qu'on les connaît, rien ne nous empêche de les griller, etc. On risque pas, en fait. Voilà, c'est ça.
Juste pour préciser, vous avez vu aussi dans de nombreux villages, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des feux verts récompense, hein, c'est-à-dire que les feux sont rouges en permanence, et puis quand vous vous approchez à la bonne allure, pof, ils passent au vert, ils vous laissent passer. Alors ces feux-là, on ne peut les installer que dans ce but-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus sécuriser un passage piéton avec, ni un carrefour. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un piéton qui se dit finalement le feu est rouge, il est vert pour moi, je peux traverser. Si une voiture arrive à la bonne allure, ça déclenche le vert pour elle. Et vous avez le piéton qui a déjà amorcé la traverse. Et là, pour le coup, c'est dangereux. Donc, dans nombreux villages, je ne citerai pas l'entreprise qui a convaincu beaucoup de maires d'installer ce genre de dispositif, alors que les maires prennent un risque juridique si jamais il arrive quelque chose. Donc, on est là aussi pour alerter sur la conformité de ce qu'on fait. Les feux verts qui gèrent la vitesse ne doivent avoir que ce but et ce seul usage. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on voulait mettre un feu vert récompense dans le village, eh bien, vous auriez un feu seul au milieu du village, sans passage piéton, sans carrefour. Voilà. Hein ? Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce qu'on appelle le rouge punition n'existe pas. C'est-à-dire que avant, le but était de se dire, on met le feu au vert, et puis quand les gens arrivent trop vite, on le fait passer au rouge. Sauf qu'en fait, ça avait un effet pervers, les gens accéléraient pour passer à l'orange. Donc là, vous avez, c'est ce qui se passe aussi avec certaines écluses. On installe des fois, de façon temporaire, pour des tests, ce qu'on vous proposera d'ailleurs sur Cholois, on installe des écluses pour que les gens, vous savez, se laissent passer, hein, donc ralentissent. Et en fait, quand vous avez une grande visibilité, parfois, les gens accélèrent pour arriver avant l'autre. Donc, au final, on démonte les écluses parce que c'est pire que le remède est pire que le mal. Donc, voilà. À chaque aménagement, il y a parfois ce qu'on a fait, un effet pervers et un comportement qui n'est pas souhaitable.
On arrive vers la fin. On a, depuis le début, un peu pris le point de vue de la voiture, de l'automobiliste. Et c'est vrai que Monsieur le maire m'a fait remarquer que c'était important aussi de prendre le point de vue du piéton et la notion aussi d'espace public. Donc on a prévu quelques slides là-dessus.
Dans la rue traversière, il poussait des roses et tout un tas d'autres choses que personne ne voyait. Et tout un tas d'autres choses.
Pour rappeler, donc, l'espace public, c'est donc les voies, les rues, les trottoirs, les accotements et, en Lorraine, précisément, les usoirs, qui sont typiquement lorrains. Ça peut être aussi les places, les champs de foire, ça peut être les espaces de circulation douce, donc on disait une rue qui passait piétonne, etc. Pistes cyclables. et les espaces paysagers. Voilà, ça, ça fait partie des espaces publics. Dans le cas des usoirs, donc on fait un petit laïus là-dessus parce que c'est ce qu'il y a majoritaire dans les villages lorrains, y compris à Cholois, en tout cas sur la rue de Toul. Donc c'est une bande de terre, donc une bande communale, située entre la chaussée et l'habitation. Cette bande, elle appartient exclusivement à la commune. Elle a toujours appartenu à la commune, sauf contre-indication du cadastre, lorsqu'elle a été privatisée. Ce qui n'est rarement le cas. Ça servait donc à stocker du bois à l'époque, entreposer du matériel agricole, faire girer des charrettes, etc. Quand il y avait encore beaucoup d'activités agricoles dans les cœurs de village, servir d'accès aux fosses, aux caves et aux vides sanitaires. Et aussi, et on l'oublie souvent, accueillir des événements communaux et servant aussi de place de rassemblement. Donc ça avait tout un aspect villageois, à la fois de travail et aussi de loisirs. Donc l'espace public communal, donc l'usoir, a une obligation réglementaire de droit de passage. C'est-à-dire que on ne peut pas, en tant qu'usager, en tant qu'habitant, en tant que même habitant d'un autre village, se garer, par exemple, sur un trottoir en obstruant totalement le passage. Parce que dans les cas-là, c'est même plus les élus qui sont responsables de ça. On a prévu un petit document sur les usoirs, vous pourrez lire. C'est carrément l'usager qui est en tort. Donc c'est lui qui est responsable de l'obstruction de l'usoir. Voilà. Donc c'est important aussi dans le cadre légal. L'espace public aujourd'hui, l'usoire, il est encombré. Donc il a perdu sa vocation agricole, villageoise, etc. Il sert surtout de stationnement. Et donc on a la place de la voiture qui a débordé de la voirie et qui s'est mise sur ses usoirs. Donc on a des problèmes de stationnement gênants, la privatisation de certains espaces, donc par des véhicules qui restent là tout le temps, qui doivent être réparés. Ça peut être des sacs de quelque chose, voilà, des gravats, ce qu'on veut. Et malheureusement, ça crée des conflits d'usage des fois avec certains habitants. Et c'est dommage, puisque le principe même de l'usoir, juste avant, je disais, c'est accueillir des événements et rassembler les gens. C'est un peu dommage d'en arriver là. Donc, il existe des solutions quand même à ça. D'abord, c'est de définir les usages souhaités. Donc, c'est-à-dire que l'usoir, est-ce qu'on veut qu'il soit piéton? Est-ce qu'on veut qu'il soit paysager, qu'il serve d'espace partagé? Le but, c'est aussi d'organiser le stationnement, parce qu'on sait très bien que l'usoir en village, il sera à destination du stationnement en partie. Et donc, c'est est-ce qu'on peut chercher un marquage, chercher du compromis entre les habitants aussi? Des fois, il n'y a pas besoin de marquage. Du compromis, ça marche, le dialogue aussi. Et c'est valoriser aussi le caractère d'un patrimonial de ces usoirs. C'est un espace communal qui n'existe qu'en Lorraine et que beaucoup d'autres villages, je pense, envieraient de savoir qu'on peut avoir jusqu'à 40, 50 mètres, des fois, entre deux maisons, entre deux façades. Des espaces vraiment qui sont une richesse pour vous, en fait. Donc, c'est avant tout le vivre ensemble. Après ce petit point depuis la vue du piéton, faut savoir que, comme dit la slide, il n'existe pas de solution miracle. Le but, c'est vraiment d'adapter en fonction de chaque situation. C'est ce qu'on va faire aussi avec vos expériences tout à l'heure. Et que la vitesse n'est qu'un paramètre parmi tant d'autres. Les maîtres mots, c'est avant tout donc crédibilité, lisibilité, visibilité et cohérence, donc qui sont justement... qui font partie justement de l'intégration au mieux de l'aménagement sur le contexte. Et donc, en prenant toujours en compte les limites techniques et financières, malheureusement, de la commune, puisqu'il y en a.
Dans la rue traversière, il y poussait des roses et tout un tas d'autres choses que personne ne voyait. Et tout un tas d'autres choses.
Merci pour votre écoute. On vous propose donc de passer plutôt à un point d'échange autour d'une carte qu'on a imprimée, donc des cartes de l'existant. L'idée, c'est de recueillir à la fois vos expériences, vos envies, de savoir en fonction de vos expériences où vous habitez, est-ce que vous habitez devant, est-ce que c'est la maison du voisin, qu'est-ce qui se passe en fait à Cholois-Meynier autour de la traverse de la rue de Toul. Et comme ça, nous aussi, on pourra un petit peu avancer sur des propositions d'aménagement et vous guider.
En fait, on est là pour profiter de votre expérience parce que nous, on est. Enfin, moi, je suis Toulois, donc je connais un peu. Je connais Cholois, mais c'est vous qui vivez le village et c'est vous qui avez l'expérience juste. Donc, on est là pour recueillir un peu vos besoins. Vous avez parfois des besoins pour stationner, des besoins pour accéder, des besoins pour circuler. Vous avez aussi une expérience où vous avez des fois peur, où vous constatez parfois aussi des incivilités. Donc on est là pour recueillir tout ça, pour essayer d'adapter au mieux la réponse qu'on fera. Alors, en accord avec les élus, on va travailler en deux temps, même en trois temps. La première, c'est ce soir venir recueillir vos besoins, vos remarques, vos expériences, pour qu'on puisse adapter au mieux un schéma qui nous permettra d'essayer d'améliorer la sécurité sur le village. La deuxième, c'est que le département nous permet, suivant les aménagements, de parfois mettre en place des phases de test. C'est-à-dire qu'avant qu'on aménage définitivement, on tente certaines choses. Comme je vous le disais tout à l'heure, parfois on fait des écluses, les élus nous appellent, venez vite m'enlever ça, c'est pire qu'avant, etc. Ou parfois on va essayer de réduire la chaussée à un endroit, puis finalement c'est gênant. Ou on va essayer de modifier un régime de priorité sur un carrefour, au final ça n'est pas satisfaisant. Enfin vous voyez, on a cette possibilité de tester. Donc ce qu'on vous propose, c'est que on vous écoute ce soir, on fait une première proposition aux élus, ça vous sera communiqué, on met en place des tests sur ce qu'on peut tester avant d'aménager définitivement. Et puis, on aura un recueil de vos sentiments et de vos expériences pendant que ça sera aménagé. Et à ce moment-là, les élus pourront en conscience décider des aménagements qui semblent les mieux appropriés. Est-ce que ça vous convient comme ça ? Pardon. On accompagne la commune de Gauvillers dans l'aménagement de la traverse du village. C'est un peu comme à Chaulois, on a une traversée qui est relativement longue, on a un flux important aussi, on a encore aussi des convois exceptionnels, enfin, etc. Donc, on a pas mal de contraintes. Et on avait mis en place des comptages pour mesurer la vitesse et le trafic sur la commune. Il s'est avéré que sur les 3 comptages qu'on avait mis en place aux entrées du village et dans le centre du village, on avait entre 98 et 99% du respect du 50 km/h. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens nous disaient « Ah, c'est pas vrai, ça roule vite, ça roule vite ». Mais c'est ce que vous expliquez Nathan au début de sa présentation, c'est que la vitesse, elle est liée à un environnement. Et quand vous êtes une maman avec une poussette et un enfant que vous tenez par la main, ou quand vous êtes un jeune enfant et que vous êtes obligé pour aller au bus le matin à 7h alors qu'il fait nuit, de circuler sur la chaussée alors qu'on est en plein départ pour le travail, eh bien en fait, même si quelqu'un roule à 50 km/h, la vitesse, elle est trop élevée parce qu'on se sent en insécurité. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir mis en place des tests pour mesurer la vitesse, ça nous a permis de voir que le problème n'était pas la vitesse réelle des voitures. Ça ne sert à rien d'aller mettre un ralentisseur alors que les gens ne ralentiront pas. Ils roulent déjà à la bonne vitesse. Ce qui nous a permis de travailler sur l'organisation du stationnement, la continuité piétonne sur les usoirs, les visibilités, changer le dessin des carrefours, etc. Et là, au moins, on utilise correctement les deniers publics sans aller faire des ralentisseurs qui n'auraient rien changé, en fait. Voilà. Donc, c'est tout ça l'intérêt de recueillir à la fois des données factuelles, mais aussi vos sentiments, vos expériences.
Dans la rue traversière, il poussait des roses et tout un tas d'autres choses que personne ne voyait. Et tout un tas d'autres choses que personne ne voyait. Dans la rue traversière, on n'y passait jamais. C'était pas une vraie rue, et tout le monde était mort. C'était pas une vraie rue, et tout le monde était mort.